Un podcast, une œuvre, Art et paresse, Billy Zangewa, In My Solitude, 2018. Vous écoutez un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Une femme se douche. Elle cuisine, elle dort. Elle dort dans son lit ou en pleine nature. Dans des champs, dans un parc avec la ville autour d'elle. Elle bronze. Elle se repose, assise dans une chaise de jardin, des immeubles au loin. Elle regarde la ville. Elle lit un livre, un journal. Elle lit dans son lit, elle lit dans son canapé. Elle tient la main de son fils dans la rue. Elle tient dans sa main une tasse de café. Elle porte des talons, un jean moulant ou une jupe courte, une robe de chambre légère, un déshabillé, un trench ou rien du tout. Et les variations de couleurs de sa peau nue se révèlent alors par des soies brunes, rouges, roses, blanches ou même bleues quand la femme se douche. Elle est le centre de son monde, le sujet de dizaines de tapisseries murales en pans de soie brodée. Elle, c'est Billy Zangewa, une artiste née au Malawi en 1973, qui fige des instants de sa vie par le tissu depuis 20 ans, le tout dans des couleurs vives, lumineuses, enjouées et spontanées à l'image de leur créatrice et de son rire.
Oui, c'était très drôle. J'étais assise dans le jardin et dans ma tête, je savais que j'avais quelque chose à faire aujourd'hui. Et puis j'ai réalisé, oh mon Dieu, l'interview!
Ensemble, on va parler de temps pour soi et de tranquillité, de représentation du corps des femmes, de l'origine du stéréotype de la paresse associée aux personnes noires, de ce que l'art textile a à voir avec une certaine conception du temps, et de comment les femmes artistes ont utilisé les travaux d'aiguille et le tissu pour porter leur voix féministe. Dans cet épisode, vous l'avez compris, vous allez donc entendre l'artiste elle-même, mais également Julie Crène, qui est historienne de l'art, commissaire d'exposition indépendante et spécialiste des pratiques textiles contemporaines.
Si on se trouve devant une œuvre de Billy Zangewa, la plupart du temps, ça consiste en des tapisseries de fragments de soie colorée brodées entre elles. Donc des tapisseries très fines, souples et très brillantes, sur lesquelles en fait, l'artiste brode principalement des autoportraits.
Et c'est le cas avec l'œuvre qui est au cœur de cet épisode que décrit la conférencière Florence Pensiette ici.
In My Solitude est une production textile d'un mètre par 1,50 m en tissu de soie, réalisée par l'artiste en 2018 et acquise par le Centre Pompidou en 2019. Cette œuvre se présente comme un patchwork de pièces de soie cousues ou collées. Au centre de l'œuvre, une femme à la peau noire, en robe de chambre grise, est alanguie sur un canapé blanc, lisant un livre. Le visage et le corps sont dirigés vers la gauche de l'œuvre, la tête légèrement penchée et soutenue par le bras droit coudé sur le canapé. La main droite est placée pliée sous la tempe. Le visage est traité dans un camailleux de marron et rouge rehaussé de quelques taches blanches qui sont des reflets de lumière. Le regard rivé dans une attitude de réflexion rêveuse et attentive vers un livre ouvert. Une impression de calme et de sérénité se dégage de cette figure de femme lisant. La robe de chambre ouverte laisse apparaître le buste couvert d'un haut fluide et la peau marron est rehaussée de taches blanches, encore une fois des reflets de lumière. Également dénudée, la jambe gauche est étendue, légèrement pliée sur le canapé. Cette figure allongée peut faire penser à des figures féminines plus canoniques, des représentations comme la Vénus d'Urbino de Titien ou la plus provocante Olympia de Manet. Au bout du canapé blanc, dissimulant le pied droit, une plante, traitée intégralement en soie noire comme une silhouette, semble prendre la forme d'une Monstera deliciosa. Tous ces éléments nous plongent dans un intérieur, une intimité, un quotidien, un face-à-face privé avec l'artiste. Le bas de l'œuvre est comme déchiré sous la plante, créant une lacune de forme trapézoïdale. Elle rappelle la dimension profondément artisanale du travail de Billy Zangewa, qui se laisse dicter par le textile les formes de son œuvre. La couture de ses pièces parle également de la transformation de l'artiste elle-même, désireuse de guérir ses blessures, de rentoiler ses souvenirs d'enfance et de rendre hommage à sa mère qui réunissait des femmes autour de la couture. la couture s'impose pour l'artiste comme une pratique universelle, racontant l'histoire de l'humanité et son rapport au tissu, un rapport quotidien, réconfortant, social, artisanal et créatif. L'objectif est de rendre hommage à cet imaginaire féminin, tout en proposant par son sujet l'image d'une femme noire, moderne, cultivée et forte.
J'adore lire, vraiment. C'est pour moi un moment privilégié, car depuis que je suis maman, je n'ai plus tellement le temps de lire. Je lis à l'aéroport, à l'hôtel, quand je voyage pour le travail, par exemple. Cette œuvre incarne ce à quoi j'aspire lorsque je n'ai pas à m'occuper de mon fils. D'où le titre, In My Solitude. Quand je suis seule, je traîne en pyjama, je bois un bon café et je bouquine. Et j'essaie de me détendre, voilà.
Billy Zangewa se souvient du canapé blanc visible sur l'œuvre. D'ailleurs, elle insiste, c'est une très mauvaise idée quand on a un enfant, mais elle aime beaucoup ce canapé. D'ailleurs, elle l'a emporté dans son déménagement. Billy Zangewa m'appelle depuis Johannesburg, dans une maison vide, qui résonne, un nouvel espace à investir, et cela a tout à voir avec son art.
J'adore être chez moi. Je suis casanière. Je suis quelqu'un d'introverti. J'ai toujours été depuis toute petite. J'aime passer du temps dans mon lit. Avant la naissance de mon fils, je travaillais dans mon lit, et puis j'ai réalisé que ça pouvait être dangereux avec les aiguilles. Moi, ça ne me fait pas peur de me piquer, mais je n'ai pas envie que mon petit se blesse. Alors j'ai fini par troquer mon lit contre la table de la cuisine. C'est là que j'ai travaillé pendant très très longtemps. J'ai travaillé dans mon salon. En fait, je peux travailler n'importe où. Enfant, quand je vivais au Botswana et que je savais que je voulais devenir artiste, je dessinais toujours après le dîner dans le séjour. Pendant que certains membres de ma famille regardaient la télé, jouaient, lisaient le journal ou débattaient de l'actualité. Lorsque je créais, il y avait une véritable effervescence familiale autour de moi. Je crois que c'est pour ça que j'aime travailler chez moi, parce que ça me met dans un bon état d'esprit. Beaucoup d'artistes aiment avoir leur atelier dans un hangar. Moi, je ne pourrais pas. Mais alors, pas du tout. J'y arriverai pas. J'ai besoin d'être dans mon environnement à moi pour pouvoir créer. J'ai besoin d'être baignée dans le quotidien.
Et c'est aussi pour cela que d'autres œuvres de l'artiste représentent des espaces intimes, comme l'explique l'historienne de l'art Julie Crène.
Souvent, l'artiste est dans une action, que ce soit à l'intérieur, chez elle, avec des amis, sa famille, des amants, etc. Ça peut être aussi en extérieur, plutôt dans un milieu urbain, puisque c'est une artiste qui vit à Johannesburg, donc en Afrique du Sud. Elle a aussi vécu à Londres très longtemps. Elle est souvent à Paris, c'est une ville qu'elle affectionne particulièrement. Donc c'est quelqu'un c'est une artiste très citadine et qui le marque dans son travail. Donc voilà, c'est un travail d'autoportrait. Moi, je l'ai toujours compris comme un journal où l'artiste, en fait, visibilise des moments d'intimité ou des moments totalement anodins, en fait, de sa vie quotidienne.
C'est ma source d'inspiration. Je puise dans ce qui se passe autour de moi. C'est le cas avec l'œuvre « An Angel at My Bedside ». J'avais rêvé d'un défunt et était apparu dans mon rêve. C'est une œuvre qui s'inscrit dans le contexte Covid, marquée par la séparation, la mort, l'impossibilité de se rendre aux funérailles, de faire son deuil. Mon travail s'inspire donc de ce genre d'événements importants, mais aussi de moments beaucoup plus anodins, comme cette œuvre que je viens de réaliser pour ma nouvelle exposition à Santa Fe, intitulée Field of Dreams. J'en ai fait une autre qui représente mon fils avec deux plantes, qui s'appelle Earth Child. C'était à l'époque où l'on vendait notre ancienne maison, avant de déménager dans celle où nous vivons aujourd'hui. Il avait deux plantes dans les mains pour les déplacer ailleurs, et en le voyant, j'ai trouvé cette image tellement belle. Je n'arrive pas à l'expliquer ce qui a fait sa beauté. Mais il y a quelque chose qui me touche au plus profond de moi. Alors je lui ai dit stop, stop. Ne bouge plus, je vais chercher mon appareil photo. Et je l'ai pris en photo. Et aujourd'hui, il a 11 ans, il comprend les choses, il connaît mon état d'esprit. Voilà comment est née cette œuvre. Une fois terminée, elle a trouvé tout son sens. Je ne saurais pas l'expliquer. Voilà mes deux types d'œuvres, les grands moments et les petits moments de la vie de tous les jours. Ce sont mes sources de créativité.
Comme beaucoup d'œuvres de Billy Zangewa, In My Solitude n'est pas rectangulaire. Les contours sont irréguliers et dessinent en creux des formes.
Les découpes sont en fait assez aléatoires. Il m'arrive de découper un morceau d'un tissu qui était destiné à une autre œuvre. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, j'ai utilisé un tissu vert doré pour le fond. J'ai probablement utilisé un petit morceau pour une autre œuvre et ça explique le rendu. Je fais en sorte que ça reste très organique. À mes yeux, c'est important que ce soit spontané et expressif. Parce que quand vous regardez « An angel at my bedside », vous voyez la silhouette d'un homme, comme si l'esprit qui est venu à moi dans mon sommeil était bien là, mais tout à fait par hasard, comme si j'ignorais qu'il allait se manifester. Et puis, il y a cette œuvre que j'ai faite pour mon sac Louis Vuitton, qui représente mon fils au bord de la piscine. L'espace vide symbolise son père. On ne vit pas ensemble. Et il me dit toujours « Tu me détestes, tu ne m'inclus jamais nulle part ». Et je lui ai répondu « Écoute, tu es omniprésent dans cette œuvre ». Dans une autre œuvre, intitulée « Father and Child », on voit aussi cette silhouette, et c'est la sienne. Vous savez, j'aime beaucoup voir tout ça se révéler sous mes yeux. C'est comme si les espaces vides revêtaient bien plus de sens, traduisaient bien plus qu'un simple traumatisme, qu'une douleur, une transgression. Je sens que tout devient plus profond.
Ces découpes forment donc un lien entre toutes les œuvres de Billy Zangewa.
Exactement. C'est comme mes bébés. Ce sont tous mes bébés. Ils sont tous connectés. Ils ont tous un code génétique.
Oui, l'œuvre qui est dans la collection du Centre Pompidou, en fait, elle représente l'artiste dans, chez elle, dans son intérieur, dans son intimité la plus crue, j'ai envie de dire. Elle est en train de lire, elle est dans son canapé, elle porte un peignoir, etc. Et en fait, elle représente la banalité même du quotidien, une scène qu'on pourrait trouver même pas valable, en fait, ou légitime à être représentée, et qui, pour elle, en fait, s'inscrit dans peut-être ce dont je parlais au départ, la question du journal, de photographies comme ça, de moments. Évidemment, il ne s'agit pas d'une photographie, mais d'images, de moments comme ça, de vie intime, personnelle, banale, mais aussi qui serait dans le sens commun, en fait. Chacun peut se projeter, en fait, dans cette scène. On peut facilement se reconnaître dans cette situation. Bon, je pense que c'est son travail qui est féministe, le fait de se représenter elle, sa vie au quotidien, donc l'expérience personnelle et féminine, le fait de travailler tout le temps sa propre image, en fait. Il y a un acharnement là-dedans, et on peut penser à d'autres artistes comme Frida Kahlo, qui peut être une de ses aînées, qui a passé une bonne partie de sa vie à s'auto-représenter. Et pour moi, les femmes artistes qui se représentent et qui nous confient ou qui partagent comme ça leur intimité, le féminisme fait évidemment partie de la lecture de ces travaux. Quand tu passes ta vie à te représenter, c'est un engagement d'abord par rapport à toi-même et puis un engagement par rapport aux autres. Et le fait que ça soit jamais épuisé, ce sujet, et que les artistes qui s'auto-représentent continuent et s'évertuent à se représenter, pour moi, il y a vraiment un engagement hyper fort et ouais, une forme d'acharnement quoi, là-dedans.
J'ai le sentiment que mes petits actes du quotidien, que je transforme en œuvre d'art, sont, d'une certaine manière, une forme de féminisme. Un féminisme tout en douceur. Mon engagement féministe consiste à dire « Regardez bien les merveilles que les femmes accomplissent au quotidien. On prépare le dîner. On emmène les enfants à l'école. On repasse leur uniforme. On chérit nos enfants. On joue au foot avec eux. » Le message que je cherche avant tout à faire passer, c'est que les femmes ont toujours été dans l'ombre. Parce qu'on ne travaille pas dans des immeubles de bureaux. On ne porte pas de costumes. On n'amasse pas des fortunes. Mais un homme ne peut pas faire carrière dans le monde des affaires s'il n'est pas épaulé par sa femme à la maison. Il ne faut pas reproduire les ambitions des femmes des années 60 et 70, qui rêvaient de se faire une place dans le monde des hommes, devenir des grandes femmes d'affaires, porter des beaux tailleurs, etc. Enfin, si c'est ce à quoi vous aspirez, allez-y, hein, ça ne regarde que vous. Moi, je défends un féminisme ordinaire. J'invite les femmes à prendre conscience de ce qu'elles accomplissent et que personne ne valorise. Je suis née dans les années 70. À cette époque, vous étiez soit femme au foyer, soit femme d'affaires. Je ne me voyais ni l'une ni l'autre. Je me suis donc demandé qui j'étais, quelle est ma place. Dans mon quotidien et mon travail, j'ai trouvé une certaine force qui m'a permis de m'émanciper. J'ai une véritable carrière et je travaille depuis chez moi, ce qui me permet de concilier le meilleur des deux mondes. Je suis mère au foyer, tout en étant carriériste. Je travaille à ma façon, d'une manière qui, à mes yeux, reflète toujours ma féminité, sans que j'aie à renoncer à qui je suis.
Ce lien entre art textile, que ce soit de la broderie, de la couture, du tricot, de la tapisserie et des propos féministes, il n'est pas nouveau, comme l'explique l'historienne de l'art Julie Crène, spécialiste des pratiques textiles contemporaines.
Dès la fin des années 50 et les années 60 en particulier, avec l'avènement des premiers mouvements féministes, des premières vagues en tout cas, les femmes artistes en fait se sont réappropriées des techniques qui étaient des outils pour contraindre les femmes, donc tricoter, broder, etc. Des techniques aussi, ou des pratiques qui leur permettaient de ne pas bouger, de rester silencieuses, d'être très docile dans une pensée patriarcale toute puissante. Quand tu es sur ton ouvrage textile, tu es généralement assise sur ton ouvrage, ça peut être ton tambour, ton morceau de tissu que tu es en train de peindre, de broder, pardon. Et en fait, tu as une position qui est très contrainte, la tête baissée, le corps immobile avec seulement les mains en fait qui bougent légèrement. Mais pour moi, c'est surtout le silence en fait qu'il y a là-dedans. C'est que pendant que tu fais ça, en fait, t'es pas en train de lire, t'es pas en train de t'exprimer, t'es pas active en fait. Et c'est cette passivité que les femmes artistes féministes dans les années 60 ont complètement retournée en faisant de l'aiguille, peu importe la taille de cette aiguille, une arme politique d'émancipation, de réappropriation, d'un savoir perpétué de génération en génération, un savoir souvent matrimonial, qu'elles vont débarrasser de cette passivité pour en faire un cri en fait politique et artistique. Ça passe par le fait de visibiliser et de verbaliser, ou en tout cas dénoncer, tout ce dont les femmes avaient honte, du fait encore de cette pensée dominante, c'est-à-dire ça passe par le fait d'exposer son intimité. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'artistes dans les années 60 qui ont travaillé la broderie et le sang menstruel. Il y a beaucoup d'artistes qui ont parlé de la question de l'avortement, qui était illégal. Il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé à parler des changements corporels des femmes. En fait, de l'expérience des femmes dans toute sa globalité, qui était jusque-là complètement silenciée parce que honteuse. Et finalement, le fait d'utiliser des pratiques et des outils qui participer à cette passivité, à ce silence pour les retourner et en faire complètement autre chose. Enfin, je dis tout le temps des armes politiques. Hein. C'est vraiment exposer son intimité. Il y a une assignation aux femmes par rapport au textile qui colle encore à l'art textile. Hein. Quand on dit art textile, on pense tout de suite à plein de femmes artistes et pas beaucoup aux hommes artistes. Pourtant, il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, justement, le fait de se réapproprier ces techniques pour en faire autre chose, c'est aussi déjouer cette assignation toute patriarcale qu'elle est, pour lui faire dire autre chose, en faire autre chose et participer à un mouvement collectif d'émancipation.
Ne pas être honteuse de son genre ni de sa sexualité, en tant qu'être désirant et désiré, avec ce choix de la soie qui est aussi un matériau de l'intime.
Le fait de choisir le tissu comme support de travail était pour moi un acte de rébellion contre le statu quo du système, car on n'encourageait pas les femmes à exprimer leur féminité. Alors je me suis dit, quel meilleur moyen d'exprimer ma féminité que de coudre ? Ça, c'est mon côté un peu rebelle. Je suis une rebelle discrète. Je ne suis pas une rebelle tapageuse. Mais je n'aime pas cette idée que les femmes artistes doivent étouffer leur féminité dans leur travail pour être prises au sérieux. Je n'adhère pas du tout à cette idée qui sous-entend que nous, les femmes, devons avoir honte de notre sexe. C'est le message qu'on me renvoyait. Et je me suis dit non, je n'ai pas à avoir honte de mon sexe.
Moi, je pense que l'utilisation par Billy Zangewa de la soie, c'est plutôt le côté luxueux et précieux et le côté trésor qu'il peut y avoir dans... Et même le côté du plaisir que tu peux avoir à toucher ces tissus, à les manipuler, etc. La fluidité de ces tissus. Je pense que c'est plutôt des qualités à la fois symboliques et intrinsèques à la soie qui l'intéressent justement dans son travail.
Et Billy Zangewa se présente aussi, souvent, dénudé dans ses œuvres.
C'était surtout une manière pour moi de reprendre mon pouvoir. Car je pense que ce n'est pas uniquement propre aux femmes noires. Je crois que ça concerne les femmes en général. Dans l'histoire de l'art, les femmes nues sont toujours représentées par des artistes masculins. Alors je me suis dit qu'il était temps que les femmes s'approprient leurs récits. Dans mes œuvres, la nudité n'est donc jamais gratuite. Je peux être sous la douche, par exemple, mais je me célèbre en tant qu'être sexuel. C'est un autre message que je souhaite transmettre à la société. Parce que nous, les femmes, n'avons pas le droit d'éprouver de désir sexuel. On est censé satisfaire nos maris et enfanter. Mais en fait, je suis un être très sexuel et je peux me servir d'un homme pour me satisfaire. Allons, soyons réalistes.
Par exemple, les femmes artistes noires qui pratiquent l'autoreprésentation, souvent, je pense à Faith Ringgold ou à René Cox, d'autres artistes, plein d'artistes en fait, qui se mettent en scène dans des situations héroïques, font de leur corps des monuments, sont dans une sacralisation de leur corps. Et finalement, là, dans une scène plus modeste, banale, commune, etc., il y a vraiment déjoué l'extraordinaire pour aller revenir vers quelque chose d'ordinaire, en fait. C'est peut-être aussi une autre manière de représenter, à se représenter soi pour l'artiste et représenter les femmes noires d'une manière plus générale et peut-être d'en finir avec quelque chose de l'ordre du pouvoir ou du surpouvoir. Parce que comme elles ont été sous-représentées, voire pas représentées, ou alors mal représentées, donc avec du mépris et énormément de racisme, évidemment, et ben, il y a eu ce contre-effet à ce racisme qui était d'en faire des monuments de pouvoir. Et finalement, là, Billie Zangewa, dans son travail, elle se représente de la manière la plus ordinaire et la plus humaine qui soit. En tout cas, il y a quelque chose de très modeste dans sa façon de se représenter. Et moi, dans cette modestie, j'y vois une puissance très importante par rapport à la fierté de représenter par son corps, par sa propre image, les femmes noires. Donc c'est aussi une manière de déjouer toute une histoire de la représentation des femmes noires qui est traditionnellement passive, au service d'eux. Et là, en fait, elle est le centre. Elle est le sujet et elle est le centre de sa pratique et le centre de son sujet de représentation. Et donc, à travers elle, en fait, Billie le dit souvent, elle, c'est à la fois les femmes noires, mais aussi les femmes dans leur ensemble qu'elle représente.
Les femmes dans leur ensemble, certes, mais parler de paresse, puisque c'est le thème de cette saison de Un podcast, une œuvre, parler de paresse pour la représentation d'une femme noire ou d'une femme blanche, ce n'est pas la même chose. La paresse est un stéréotype raciste qui existe depuis plusieurs siècles, comme l'explique l'historienne Delphine Peretti-Curtis, autrice de Corps noir et médecin blanc, qui documente la construction des stéréotypes raciaux sur les corps noirs dans la littérature médicale.
Au moment de l'esclavage, on commence à voir apparaître ce stéréotype de la paresse. La paresse serait un des caractères dominants des populations africaines, selon ces planteurs, au moment de l'esclavage. Et il faudrait donc, selon eux, leur conférer des normes de travail et des règles de vie, une tutelle. Donc c'est au moment de la traite et de l'esclavage que ce stéréotype se développe massivement et il va être relayé ensuite au moment de la colonisation, donc, au XIXe siècle. Il y a le terme de paresse, indolence, ensuite apathie, on va retrouver le terme d'apathie, le terme de lasse, de fatigue, on retrouve des synonymes très nombreux. Et en fait, on présente aussi souvent dans les écrits le fait d'imposer cette contrainte du travail comme étant positive pour des populations qui ne connaîtraient pas cette valeur du travail. Et ça, c'est vraiment au XIXe siècle qu'on va voir se retrouver ces associations entre paresse et travail, avec l'idée d'une mission civilisatrice qui serait propre à la colonisation et que l'on apporterait là, alors que l'esclavage a été aboli. La paresse ce préjugé qui était latent va se voir renforcé au moment de la colonisation parce qu'il y a une justification supplémentaire à apporter à ce travail forcé qui est toujours existant malgré l'abolition. Il y a de véritables ambitions économiques et politiques derrière cette invention du stéréotype de la paresse, transformé en un savoir scientifique, se voit réapproprié dans les discours politiques et ensuite sort de la sphère scientifique et politique pour imprégner les représentations mentales et les mentalités d'une manière générale. Et au milieu du XXe siècle, lorsque l'on invalide la notion de race, qui n'existe pas, il n'y a aucune réalité biologique à la notion de race humaine, les stéréotypes, eux, ne disparaissent pas parce que on ne les combat pas un par un et l'on ne va pas effectivement tenter de déconstruire un à un le stéréotype de la paresse ou encore celui de l'hypersexualité qui ont encore, hélas, des résonances parce qu'ils ont été construits et diffusés, validé par la science, repris par le pouvoir politique pendant plus d'un siècle et demi.
Du coup, j'ai quand même demandé à Delphine Peretti-Courtis si, pour elle, In My Solitude représentait une forme de paresse.
Oui, alors je l'ai trouvée très belle. C'est une œuvre très inspirante aussi. Pour moi, elle m'inspire au contraire l'idée d'un renversement de ce regard. Selon moi, la paresse n'en est pas présente ici. Cette femme est plutôt représentée comme étant maîtresse de son corps, de son temps. Elle est indépendante et émancipée dans la représentation qui est suggérée, et notamment avec la lecture du livre. C'est là que l'on voit cette forme d'indépendance. Elle ne semble pas être sous la tutelle d'un homme. Elle ne s'offre pas à son regard non plus. La posture est sensuelle. Il y a une grande féminité qui se dégage aussi de cette femme, qui est sensuelle, mais qui lui appartient. Voilà, qui n'est pas offerte à un... C'est vraiment brillant de sa part parce que je trouve que c'est très difficile d'incarner la sensualité pour une femme sans incarner la femme objet qui serait offerte au corps de l'homme pour le désir de l'homme ou le basculement entre sensualité et sexualité. Et là, je trouve qu'effectivement, c'est une sensualité maîtrisée et c'est son corps qu'elle maîtrise, ses envies, l'envie de lire également. C'est ici une paresse positive, en fait. Ce n'est pas C'est le choix de son temps. Que faire de son temps ? Ouais.
Je pense qu'il faudrait parler de sérénité. C'est le mot que je choisirais. Même si vous vous démenez au quotidien et que vous avez une vie difficile, vous devez prendre un moment dans la journée pour trouver un peu de sérénité. Vous pouvez vous asseoir sous un arbre et manger une mangue ou faire une sieste. La sérénité n'est pas l'apanage des riches et de ceux qui n'ont pas de problème. Tout le monde peut la cultiver dans sa vie, quelle que soit sa situation. Vous pouvez aller au parc et vous asseoir dans la roseraie en fleurs. Ce sont des lieux libres d'accès et gratuits. Vous pouvez vous y asseoir et apprécier le parfum des roses. Vous pouvez même y faire une sieste. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'explore avec mon œuvre In My Solitude. Ce sont ces petits moments qu'il faut savoir trouver. Vous savez, même dans votre lutte de personnes racisées, vous pouvez trouver une sérénité. Vous pouvez vous asseoir en cercle, manger en famille, comme nous le faisons au Malawi, où il est de coutume de partager le même plat. Et vous savez, je trouve ça tellement beau. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans un hôtel chic. Vous n'avez pas besoin d'être dans un cadre idyllique. Vous pouvez trouver la sérénité n'importe où. Je pense que les gens n'apprécient pas ces moments car ils les considèrent comme acquis. En fait, nous ne voyons pas ces moments parce que nous sommes trop focalisés sur ce qui ne va pas. Mais vous pouvez trouver 5 minutes. Je suis une mère célibataire, les moments de sérénité sont rares. Ils n'arrivent pas tout seuls. Mais par exemple, ce matin, pendant que mon fils jouait au football ou prenait son petit déjeuner, j'ai pris le temps de m'asseoir au soleil et de savourer une fraise. C'était un vrai moment de sérénité. Mais ça a duré quoi ? 5 minutes ? Mais si vous prenez conscience de ces 5 minutes, on dirait qu'elles durent 5 heures. Il faut voir la vie avec une perspective beaucoup plus large. Il faut aussi montrer que la vie des personnes noires n'est pas que souffrance, privation, exclusion ou oppression. Il faut aussi montrer les moments de sérénité. Si je dépeins la négritude dans mes œuvres, c'est parce que je sais combien il est difficile d'être une femme noire. Étant née dans les années 70, au début des années 70, et étant une femme noire africaine, j'ai pris conscience des défis qui m'attendaient. Alors au lieu de partir défaitiste, j'ai voulu prendre ces défis à bras-le-corps. Je voulais me donner les moyens d'agir en m'investissant dans mon travail, en vivant ma vie à fond en quelque sorte. Voilà le contexte dans lequel est née cette représentation. Je n'avais pas l'intention de représenter toute la communauté noire. Ça n'a jamais été mon propos. Ce que je voulais, c'était me donner du réconfort face à tous ces défis, m'encourager et dire aux jeunes filles noires qui vivaient la même chose que moi qu'elles étaient capables de surmonter leurs difficultés. Mais je veux aussi toucher d'autres personnes C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon travail n'est pas exclusivement auto-centré. On trouve toujours différentes couleurs de peau dans mes œuvres.
Tout ce que dit Billy Zangewa sur le fait de ralentir, de profiter d'instants de tranquillité dans le quotidien, cela se voit par le sujet de son travail, mais aussi dans le choix du textile et de l'acte de broder.
Évidemment, la question du temps est inhérente au choix de broder. Il y a un côté très méditatif, très obsessionnel. Évidemment que ça prend du temps, en fait, de broder. Et le fait d'aller à rebours comme ça d'une société aujourd'hui où tout va hyper vite, et c'est tout le contraire de scroller, en fait, le fait de broder ou de peindre. Pour moi, c'est pareil, en fait. Broder et peindre, c'est la même chose. C'est que ça prend énormément de temps et que ça permet de figer. Et pour moi, quand on fait le choix de pratique, on va dire presque ancestrale, il y a cette idée du temps qui est mise en jeu. Et ouais, il y a vraiment cette question de retenir quelque chose. Je pense à une jeune artiste qui s'appelle Juliette Van Waterloo et qui fait du tufting, de la tapisserie, de la broderie et qui dénonce particulièrement les violences policières. Et Juliette Van Waterloo, en fait, elle parle de ça, du fait qu'elle cherche les images sur Internet. C'est des images ultra-violentes de personnes racisées qui se font tuer par la police ou arrêtées par la police de manière extrêmement violente. Et donc, ces images qu'elle va trouver sur Instagram ou je sais pas où, elle va prendre le temps de les broder, d'en faire des tapisseries, pour aussi leur donner un autre statut à ces images. Parce que Billy Zangewa, elle pourrait faire des selfies avec son téléphone et les imprimer et en faire des tirages photos, etc. Ce que d'autres artistes font, il n'y a aucun problème avec ça. Mais le fait de choisir d'assembler les morceaux de soie, de les broder, etc., il y a vraiment l'idée aussi peut-être de sacraliser un peu les choses dans le fait de retenir ces images, qui sont furtives et fugaces, en fait, à l'origine. En fait, quand je disais que la peinture et la broderie, pour moi, c'est la même chose, c'est dans le sens où c'est le rapport au temps, c'est pas la gestuelle ou le résultat, tu vois, plastique de l'œuvre, et que évidemment quand on voit une œuvre de Billy Zangewa, c'est pas une peinture, enfin voilà, ça peut pas être une peinture. Par contre, je pense que c'est pensé comme une peinture, et que les petits morceaux de soie, la manière dont ils sont positionnés, etc., pour faire apparaître des lumières à la fois sur, je sais pas, par exemple la carnation de sa propre peau, tout ça c'est choisi à la manière d'une peintre, en fait. Pour moi, il y a une réflexion de peinture à l'intérieur de ce travail, mais le résultat ne sera jamais celui de la peinture, parce qu'il y a, ouais, il y a une vibration par rapport à l'espace. C'est des œuvres qui peuvent vibrer, en fait, quand elles ne sont pas encadrées. C'est même beaucoup plus beau de voir des œuvres de Billy Zangewa qui ne sont pas encadrées, parce qu'elles jouent vraiment avec les courants d'air et avec l'espace, etc. Elles vibrent, alors qu'une peinture ne pourrait pas vibrer de cette manière et jouer même avec les mouvements de nos propres corps dans l'espace. Mais effectivement, il y a une pensée de la peinture à l'intérieur de son travail, ça c'est sûr.
Je pense que je suis toujours sur le chemin de la découverte de moi-même. C'est un chemin qui ne finit jamais à mon sens. Mais je fais aussi d'autres choses. Vous savez, pour mon exposition au musée Site à Santa Fe, j'ai créé des miroirs avec lesquels le spectateur peut interagir pour créer sa propre œuvre d'art à la Billy et emporter avec lui un souvenir. Je réalise aussi des œuvres sur papier. J'explore donc de nouveaux supports. Mais pour l'instant, c'est la dimension narrative qui me plaît et j'ai hâte de partager avec tout le monde mon quotidien dans ma nouvelle maison. Parce que l'espace est complètement différent de mon ancienne maison. La dernière nuit passée dans mon ancienne maison, toute recroquevillée sur le petit lit de mon fils, je me souviens m'être dit « J'ai acheté cette maison, c'était une source de stress et ça nous a permis à mon fils et à moi de surmonter toutes les épreuves que nous avions traversées, du moins celles que j'avais traversées avec son père. C'était très difficile pour moi, mais je me sentais si bien là-bas que j'ai pu faire un vrai travail d'introspection et de guérison. On ne guérit jamais vraiment totalement, mais au moins, j'ai pu guérir ce dont j'avais besoin de guérir à cette époque. Aujourd'hui, on vit dans cette maison et je me demande quel genre d'œuvre va voir le jour ici. Parce que je n'ai pas emménagé ici pour soigner des blessures. Je ne suis pas venue ici pour échapper à un événement tragique. Je suis venue ici parce que j'estime que je le mérite. Parce que j'ai travaillé dur, j'ai économisé. J'ai acheté cette maison pour en faire mon cocon. Donc je l'ai rénovée, j'ai apporté beaucoup de changements, j'ai aménagé le jardin, je me l'approprie vraiment. C'est là que je recharge mes batteries, si je puis dire. C'est là que j'y puise ma force. Ici, je me sens vraiment en confiance, sûre de moi. Et puis, mon fils sera bientôt adolescent. Et j'ai 50 ans, donc nous embarquons pour un nouveau voyage. Je suis très curieuse de voir quel genre d'œuvre je vais créer sur notre vie ici, vraiment.
Ah, et ce titre, alors, est-ce qu'il y a une référence ?
J'aime beaucoup faire des clins d'œil dans mes titres. J'ai vraiment à cœur de relier le spectateur à quelque chose qui relève de la culture populaire. Vous avez tout à fait raison, ça fait écho à la chanson de Billie Holiday. Absolument, oui. In my solitude, you haunt me. On est loin de la chanson d'amour triste. Quand je suis seule, tu me hantes.
Merci à l'artiste Billie Zangewa d'avoir accepté cet appel depuis l'Afrique du Sud, en plein déménagement. Merci à Delphine Peretti-Courtis d'avoir accepté cet appel depuis le Canada. Et merci à Julie Crène d'avoir pris le train pour me retrouver. Un podcast, une œuvre est une émission du Centre Pompidou, écrite et réalisée par Camille Regache, produite par Clara Gouraud, mixée par Yvan Gariel, habillée par la musique de Nawel Ben Krayem et Nassim Kouti. Merci à Clémence Boisset d'avoir prêté sa voix pour que vous puissiez entendre en français les propos de Billie Zangewa.